Je m'appelle Emma, j'ai 10 ans, je suis en CM2-1 et je vais vous lire un morceau de mon livre qui s'appelle La famille pot-au-feu. Liste des choses qu'il ne faut surtout pas faire un dimanche soir. Pensez au lendemain matin, imaginez comment sera le lundi qui suit. Se dire que le week-end est déjà fini, liste de tout ce qu'on s'était promis de faire durant ces 2 jours et que l'on n'a toujours pas pu faire, pas plus que le week-end précédent ni le suivant. Ouvrir un courrier qui vient de loin. Comme chaque dimanche soir, à la truffe des Vosges, M. Lavarenne arrive en premier. Il fait s'asseoir à sa place et se régale par avance du spectacle que l'on sera pour lui ce dîner. Il commande la même chose que d'habitude. Une salade de pommes de terre du Périgord, une andouillette, un brie et une crème brûlée. Chaque dimanche, il se promet que la prochaine fois, il essaiera le tiramisu. On lui en a dit le plus grand bien. Mais il n'ose pas. Monsieur Lavarenne n'est pas vraiment ce que l'on appelle un aventurier. À la table voisine, Jeandot, l'académicien, l'écrivain reconnu, la gloire de la culture française, dîne avec Sainte Moustache, le plus vieux et le plus nul des tueurs à guéguet de Paris, le seul au monde à n'avoir jamais éliminé personne. Ils sont en compagnie du commissaire Leblon et de sa charmante épouse. Leblon règne sur Paris, il en dirige la police. Vers 10h arrive Lorelei, la star de la chanson. C'est désormais une habituée. Elle est entourée des gloires du moment, celles qu'il faut connaître et avec qui il faut être vu. Mais attention, à la truffe, personne ne prend de selfie. On ne demande pas d'autographe, c'est une soirée en famille. Et en famille, ces choses-là ne se font pas. Et si Lorelei chante une ou deux de ses chansons, c'est juste comme ça, pour le plaisir. À la table 8, dîne une très vieille dame. Elle a pris un abonnement. Elle veut venir chaque dimanche jusqu'à la fin de ses jours. Et elle a beau avoir presque 100 ans, elle espère que cela durera encore très longtemps. Ce soir, elle testera le pied de cochon pané et le tiramisu. La chanteuse prendra une salade et piquera des pommes de terre de chez son voisin. Une tarte à la rhubarbe traversera la salle et croisera un monster bien fait. Il y aura du bruit, des verres qui s'entrechoquent, des assiettes qui s'empilent, des chaises qui bougent, des cris quand on se fâche et des éclats de rire quand on se réconcilie. Même M. Lavarenne, qui est seul depuis qu'il est né, finira par être accompagné. À la cuisine, papa est aux anges. Ses grands bras découpent, assemblent, associent, présentent, déplacent, choisissent, soulèvent des couvercles, changent des casseroles, remuent des cuillères. Il est comme un moulin aux ailes sans cesse en mouvement. Il cuit, rafraîchit, lave, grille, panne, émince, râpe et découpe avec bonheur. Bref, il cuisine.
Des hiboux empaillés. Pendant ce temps, dans la chambre de la tante Alberta, Charbon était accroupi dans un coin. Il était entré par la cheminée, car la femme s'enfermait toujours à clé pour dormir. Sa mission était de la surveiller dans son sommeil et de prévenir Stella aussitôt qu'elle recommencerait à remuer. Si jamais elle se réveillait et surprenait sa nièce en train de parler à un enquêteur, elle lui ferait payer très cher. Un immense portrait à l'huile d'Alberta et de Wagner dominait la pièce dans son gros cadre doré. Sur les tables et les meubles, tout autour du lit à baldaquin, il y avait des boîtes en verre, dans lesquelles étaient exposés des hiboux empaillés, des hiboux de toutes sortes, de toutes tailles et de toutes couleurs. Le hibou miniature japonais. Le légendaire hibou cyclope de l'Himalaya, aussi appelé Nakanoï. Le hibou amphibie à long bec de l'Antarctique, capable de plonger à des centaines de mètres de profondeur pour pêcher. Le hibou à piquant, ou hibutus ricinus, de son nom latin. Le hibou, mi-cochon, ou hibouchon. Le hibou à nain des îles Fidji, incapable de voler. Le hibou siamois, à deux têtes. Le hibou sans plumes, du pays des Galles, ou hibutus chauvus. Le hibou trépied, à trois pattes. Le hibou de Noël, couvert d'une fourrure polaire, à ne pas confondre avec la bûche de Noël. Même pour un fantôme, le spectacle de ces superbes créatures, figées à jamais dans la mort, était profondément lugubre. On pouvait aussi voir, dans les vitrines, diverses scènes forestières, avec des hiboux disposés de manière spectaculaire. L'un, perché sur une branche, déployait ses ailes pour s'envoler. Un autre tenait une souris sur ses serres. Il y avait d'autres scènes encore plus bizarres. Un hibou jouant du xylophone. Deux hiboux jouant au badminton. Un hibou faisant du patin à glace. Deux hiboux pratiquant l'escrime. Deux hiboux sur un tout petit tandem. Un autre en culotte de cuir exécutant une danse traditionnelle bavoise. Un hibou miniature à cheval en tenue de hockey. Un hibou déguisé en baron rouge, l'as de l'aviation allemande pendant la Première Guerre mondiale. Un couple d'hiboux s'adonnant à la danse de salon. Un hibou danseur de hip-hop, d'autant plus curieux que le hip-hop n'a été inventé qu'à la fin des années 1970. Toute personne visitant la chambre de la tante Alberta aurait su immédiatement que cette femme était complètement folle, et même folle dingue.
Léna, CM2-4, se veut lire Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 35, au-delà du voile. Des silhouettes noires surgirent de partout, bloquant le passage des deux côtés. Des yeux brillaient à travers les formes des casoules. Une dizaine de baguettes magiques allumées étaient plantées sur leur poitrine. Ginny étouffa d'une exclamation d'horreur. « Donne-moi ça, Potter !» répéta la voix traînante de Lucius Malfoy, qui tendait la main vers lui. Harry sentit une nausée l'envahir. Il était cerné par des adversaires deux fois supérieurs en nombre. « Donne !» insista Malfoy.
« Où est Sirius ?» demanda Harry.
Les mange-morts éclatèrent de rire. Une voix féminine, dure et sèche, s'éleva à la gauche de Harry et lança d'un ton triomphant. « Le Seigneur des Ténèbres sait toujours comment faire !»«
Toujours !» dit doucement Malfoy comme un écho.
« Maintenant, donne-moi la prophétie, Potter !»«
Je veux savoir où est Sirius !»«
Je veux savoir où est Sirius !»
répéta la femme en l'imitant. Les mange-morts s'étaient rapprochés et n'étaient plus qu'à quelques dizaines de centimètres. Les rayons de lumière qui saillissaient de leurs baguettes magiques l'éblouissaient.
« Vous l'avez fait prisonnier !» dit Harry.
Il décida de ne pas prêter attention à cette panique qui sentait monter dans sa poitrine, à cette peur qu'il combattait depuis le moment où il s'était glissé dans l'allée 97.
« Il est ici, je le sais !»
Le petit bébé fait réveiller un furfaux et a cru que son rêve était vrai,
dit la femme en imitant une horrible voix d'enfant. Harry sentit Ron bouger à côté de lui.
« Ne tente rien !»
marmonna Harry.
« Pas encore !»
La femme éclata d'un rire rauque.
« Vous l'entendez ?» Vous l'entendez?
Il donne ses instructions aux autres mômes comme s'il pensait pouvoir se battre contre nous.
Oh, tu ne connais pas Potter comme je le connais, Bellatrix, dit doucement Malfoy. Il a une faiblesse très marquée pour le mélodrame. Et le Seigneur des Ténèbres a très bien compris cela chez lui.
Maintenant, donne-moi cette prophétie, Potter.
Je sais que Sirius est ici.
Une peur de panique lui serra la poitrine. Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer normalement.
Vous l'avez fait prisonnier,